Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, et c'est l'émission Idéaux et débat du jour qui commence. Première émission de rentrée littéraire de janvier, c'est celle que je préfère en général, et là effectivement il y a des très belles choses à se mettre sous les yeux. Alors cette émission va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que nous avons eu l'occasion d'interviewer deux auteurs. Un pour un roman qui date d'avant, qui est donc Grégory Le Floch, pour un roman qui est paru aux éditions du Seuil et qui s'appelle Peau d'ours, et un qui sort ces jours-ci, un très très beau livre qui s'appelle Si tu traverses les eaux de Justine Beau, et ça c'est paru aux éditions Gallimard. C'est un ouvrage qui m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà pour le programme de cette émission. L'entretien avec Justine Beau est assez long et on va commencer par l'écouter. Donc, Si tu traverses les eaux, Justine Beau, aux éditions Gallimard. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz avec le grand plaisir de rencontrer pour la première fois Justine Beau. pour un superbe roman qui paraît chez Gallimard et qui s'intitule « Si tu traverses les eaux ». Alors moi, je n'avais rien lu de vous jusqu'à présent. Vous avez changé d'éditeur, vous êtes arrivé chez Gallimard, je vous ai découvert sur PDF, parce que le livre n'est pas encore, au moment où on fait l'interview, n'est pas encore fabriqué. Et je suis tombée sous le charme de l'histoire que vous racontez, sous le charme de votre écriture, que j'ai trouvé absolument exceptionnelle. Donc je voulais vous le dire, j'ai été très émue en lisant ce livre, et vraiment, je tenais à faire cette première émission de rentrée sur ce livre, « Si tu traverses les eaux », Justine Beau. Alors, comme je ne connais pas ce que vous avez fait au préalable, ce que je vais découvrir maintenant parce que je vais revenir en arrière dans votre parcours littéraire, je voulais vous demander comment était né « Si tu traverses les eaux », comment vous aviez choisi ce thème à la fois très, j'allais dire, très utilisé déjà, connu, reconnu, mais vous en faites quelque chose d'absolument singulier. Et c'est ça qui m'a touchée.
Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. La première d'entre elles étant une réponse que font, je crois, beaucoup d'écrivains, qui consisterait à dire ce livre a à la fois 2 ans maintenant, ou 1 an depuis que j'ai fini de l'écrire, et en même temps il a 37 ans, qui est mon âge, non pas actuel, mais mon âge
à l'époque,
au moment de la publication du livre. Pourquoi je parle de ces deux temps? Alors, pour ce qui est du temps le plus court, c'est-à-dire le temps d'écriture qui s'est étendu de 2023 à 2024, c'est un moment où je venais de sortir d'un autre livre publié en 2024 qui s'appelait Eve Melville Quantique, et dont l'écriture, je crois, a impulsé celle-ci dans le mouvement de la langue. À travers notamment quelque chose que j'explore depuis plusieurs livres, qui est l'entrechoquement des temps, qui est très présent dans le texte, je crois, et j'avais pas mesuré, d'ailleurs en relisant je me suis aperçue que cet entrechoquement avait lieu à des endroits que je n'avais pas forcément prévus. Mais donc c'est un livre qui à la fois vient de la rédaction des précédents. Je crois que je suis tombée en fait une nuit d'insomnie sur une photo de l'Hôtel Atlantique. Alors on va sans doute y revenir, mais l'Hôtel Atlantique c'est le lieu qui
la gare de triage.
Exactement. Ce que je ne savais pas, ni en voyant cette photo, ni en connaissant l'Hôtel Atlantique, puisque donc au moment où je découvre cette photo, c'était, je pense, pendant la rédaction du précédent livre. Je découvre cette photo une nuit, je reconnais l'endroit, puisqu'en fait cet Hôtel Atlantique se trouve, même si je ne suis pas du tout attachée à la ville et à la réalité de l'endroit, mais plutôt à l'image que cet endroit a produit en moi.
C'est symbolique.
Complètement. C'est une antichambre, c'est une sorte de non-lieu. C'est un lieu qui sans doute a existé dans plein d'autres villes et qui de toute façon se suffit à lui-même. Mais donc au moment où je découvre cette photo, je suis renvoyée à mon enfance et à ce lieu que je connaissais sans savoir du tout ce dont il s'agissait. Donc immédiatement, vous voyez, le temps court nous envoie vers le temps long. Et donc j'ai écrit le texte relativement vite, disons pendant une année, mais il remonte à beaucoup plus loin que ça, probablement.
Alors, vous évoquez l'écriture, vous évoquez le choc des temps. Il y a un autre point qui est très très important dans votre matière, dans votre manière d'écrire, c'est le « on ». Et ce « on » fracasse aussi, parce que quand on bute sur du « on », et il y en a énormément, et ça va avec l'histoire, c'est quelque chose de très très fort et qui renforce, fait écho à l'histoire. Votre écriture fait écho à l'histoire, et c'est ça qui m'a aussi particulièrement captivée.
L'écho, c'est un mot que j'aime énormément. D'abord parce que ça renvoie au mythe d'écho qui était condamné à répéter les paroles entendues et donc à ne plus pouvoir se faire entendre. Et puis c'est bien sûr la matière du son. Et ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je suis très sensible dans ma vie quotidienne. Enfin, la qualité du son d'une pièce, par exemple, ce genre de choses. Et en effet, dans l'écriture, ce qui m'intéresse plus comment dire, la manière dont j'essaye de briser le récit, ou en tout cas de ne pas verser dans un récit qui serait préexistant à ma langue, à moi, c'est précisément en convoquant les échos. Mmh. Et donc, ça passe à la fois, vous l'avez dit, par ce « on », d'ailleurs, auquel la figure qui traverse le livre, je pense qu'on va en parler, le personnage... en fait, c'est un « on » contre lequel elle bute, et ce « on », il a plusieurs formes, je crois, dans le livre. C'est intéressant parce que j'y avais pas tant pensé pour ce texte-là, mais c'est quelque chose qui me travaille pour d'autres textes. C'est vrai que c'est à la fois, évidemment, le groupe, la masse indistincte des autres, qui la renvoie et à sa solitude et à son impossibilité aussi d'être en lien, mais en même temps de se séparer d'eux. Il y a des passages dans le texte où on sent que ce personnage est surprise par la ressemblance qu'elle retrouve entre elle et les autres. Ce sont aussi les forces qui exercent des violences, notamment au début du texte. Et la grande question, peut-être, c'est comment ces il et ces elle et ces je et ces tu et nous sont devenus un on. Mm. Et sans doute par la force du temps, sans doute par son refus du souvenir aussi, puisqu'elle s'efforce de créer de l'oubli. Et le on, qui est ce tout petit mot, contient, je pense, tous ces échos-là, oui.
Évoquiez la langue, le son, l'importance des paroles, mais c'est intéressant parce que dans « Si tu traverses les eaux » de Justine Beau, paru chez Gallimard, il y a justement cette opposition dans cet hôtel atlantique. Alors, l'hôtel atlantique, c'est un endroit où on parque les gens, où on les trie avant qu'ils prennent le bateau pour aller à Ellis Island, l'île des larmes. Voilà, pour planter un peu le décor pour nos auditeurs. Et dans cet endroit... se retrouvent c'est un aboutissement, c'est le point de convergence de gens qui viennent de partout, qui ont des histoires diverses et variées, et c'est surtout, il y a un côté tour de Babel, c'est-à-dire que chacun parle dans une langue différente, et donc au niveau communication, au niveau échange, il y a à la fois ça, ces différents langages, et il y a un épisode très particulier autour d'une confusion sur un mot qui aura lieu, qu'on ne dévoilera pas, qu'on laissera les auditeurs découvrir, mais il y a aussi le silence. Et par rapport à ce personnage qui est votre personnage, ce personnage de Jénine, elle choisit la voie du silence. Alors quand vous parlez d'écho, c'est vrai qu'elle va... elle va se servir des mots des autres pour pouvoir ne pas avoir à raconter sa propre histoire. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de mouvement comme ça qui est particulièrement intéressant.
Oui, je pense que ça correspond à deux choses dans mon écriture qui sont une forme de défiance, de mise à distance du dialogue, de la parole parlée, qui sont deux choses très différentes, mais non pas de la voix, mais vraiment de la parole telle qu'elle se constitue. C'est drôle parce que je relisais dernièrement un tout petit texte de Paul Auster qui s'appelle « Espace blanc » et où justement il parle, il écrit ce désir qu'il aurait de séparer les choses prononcées par les voix des mots, c'est-à-dire le signifier de la matière par laquelle il se signifie. Et voilà, c'est quelque chose que j'explore dans l'écriture depuis plusieurs livres maintenant, et donc j'ai une méfiance vis-à-vis de la retranscription d'une parole spontanée, de peut-être la manière établie par laquelle les phrases vont sortir. C'est intéressant parfois de l'explorer, mais je pense que mon écriture ne se situe pas à cet endroit-là. Et donc, il y a des voix, il y a la voix du texte en lui-même, qui est une sorte de mélange entre la voix du lieu, la voix de toutes ces personnes qui, vous l'avez dit, transitent par ce lieu. Il faut préciser aussi que ce lieu, il a été construit en 1922. Et donc, moi, quand j'écris ce texte-là, on est un siècle plus tard. Et donc là encore, il y a un écho. Et c'est-à-dire, c'est comme si je me projetais dans ce lieu vide, qui ne l'est pas tout à fait aujourd'hui, mais dans un lieu où justement je devine beaucoup d'échos et où la voix des personnes se sont. Les voix se sont comme laminées, elles se sont distendues, elles me parviennent de très très loin. Ce que j'en retiens, ce sont des paroles presque bibliques en fait, des récits, des origines. Et tout le reste, effectivement, est passé au tamis du silence de Jénine et ne nous parvient que par des objets, par des gestes, des mouvements, des suppositions qu'on peut faire quant à ce qui se passe. Et effectivement, il y a une présence du silence chez Jénine parce que, et ça c'est quelque chose qui était présent dans un texte publié en 2022, qui s'appelait Alphabet. C'est l'idée, et d'ailleurs je me suis rendu compte à ce moment-là que la phrase avait été comprise totalement à l'envers de ce que je voulais dire. C'était un texte qui évoquait l'inceste et qui, dans lequel j'avais écrit à un moment donné, le silence parle, enfin c'était une sorte d'ode au silence. Et ça avait été compris complètement à l'envers, c'est-à-dire comme si j'allais contre le silence. Or, je pense que parfois, le silence est la seule matière sonore qui permet de retranscrire la violence. Parce que dès qu'on pose un mot, on a déjà...
Une perte.
Oui, on a perdu, on a perdu quelque chose, on a laissé s'échapper un souffle, en fait, on a perdu un peu de son souffle. Et donc Jénine Ring s'inscrit tout à fait là-dedans. Elle se retranche dans le mutisme, mais pour autant, quand elle entend une parole qui fait écho à celle qu'elle pourrait avoir, elle se reconnaît et elle écoute
et elle se l'approprie éventuellement.
Dans le texte. Exactement.
Wir holen, wird mir alles vor. Wie seht euch durch die Welle, durch die Glätz, in durch zwei Male, wo sich ob die Pflanz, oi, 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 Belz, mein steht alle Belz, mein Alle dort, ich hab meine kindliche Jugend verbracht. Oi, 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 Benz, mein steht alle Benz. Mein Heim, alle dort, ich hab meine kindliche Jugend verbracht. In Schabes, pflege ich Thank you. verwachsen mit Gruß. Der Dach zerfall, die Fenster los. Der Ganek ist grimm, sie boden die Welt, ihr wohnt schon mehr, schon mehr.
Terminé, moi, l'impression que j'ai eue par rapport à cet endroit, c'est j'ai vraiment, bon, j'évoquais la tour de Babel parce que c'était un petit peu ça, mais j'avais aussi cette sensation de mer des paroles gelées, avec d'un seul coup des bulles qui explosent et qui libèrent des mots comme ça, un peu dans le désordre. Voilà, c'était mon impression de lecture. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le silence de Jénine, donc on va parler du personnage de Jénine, c'est qu'elle choisit le silence, elle s'y accroche comme un moyen d'exister. Et c'est intéressant parce que on découvre Jénine quand elle a 7 ans, avec une scène inaugurale qui est d'une violence terrible, mais on s'aperçoit qu'en fait, elle va survivre. Elle va être celle qui survit, alors qu'elle était d'une certaine manière celle qui n'existait pas, qui existait dans l'ombre des autres, dans les restes des autres. Et elle est en permanence dans ce double mouvement d'existence-non-existence.
C'est vrai qu'à cet endroit-là, il y a une continuité entre cette scène inaugurale qui correspond au début de la vie de Jénine. Elle a 7 ans, qui est le moment où on commence... justement avoir une mémoire formée, etc., qui est aussi le moment où on sort de l'enfance, c'est-à-dire
l'âge de la parole.
Voilà. Oui, le moment où vraiment la parole se forme aussi. Et en effet, il y a ce silence. C'est intéressant parce que je retiens trois mots, c'est-à-dire il y a le silence, la non-existence, et il y a l'oubli aussi. Et comment, quel est le lien entre les trois, et comment les trois s'entretiennent et en même temps sont très 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 différents, puisqu'en fait, étrangement, le silence va contre l'oubli chez elle.
Ouais,
je trouve que c'est très important.
C'est une action de résistance.
Exactement. Et ça va à l'encontre de ce à quoi on est encouragé parfois, c'est-à-dire comme la parole, bien sûr, peut être un remède à l'oubli aussi, mais d'une certaine manière, l'oubli est un remède à l'oubli. Si on a en tête, par exemple, ce qu'a pu écrire Blanchot à ce sujet, c'est-à-dire si on veut se souvenir, il faut d'abord oublier. Mais donc, le silence est presque un bouclier à l'oubli. Et cette non-existence est précisément, comme vous l'avez dit, ce qui l'a sauvée. Et en même temps, c'est justement ce qui lui permet, en fait, c'est cette non-existence qui lui permet d'exister. C'est-à-dire elle n'a jamais eu d'autres modes de vie. Et elle a bien conscience aussi du fait que c'est le fait d'avoir été un petit peu... Alors, pour le dire très rapidement, il se trouve qu'elle avait une famille, que sa famille disparaît au début du livre. Et elle était l'enfant le plus jeune, celle qui était un petit peu derrière. La fille, évidemment. La fille qui avait des frères. Ouais. Et qui donc passait après les frères, non seulement en âge, mais aussi en ordre d'importance et de valeur. Et donc, elle est dans une forme... Elle est dans une forme fantomatique,
oui,
du début à la fin du livre. Et en même temps, c'est cette forme fantomatique qui lui permet non seulement de survivre au début, mais surtout de survivre tout au long de sa vie. Et en même temps, quand elle disparaît, elle disparaît. Elle disparaît complètement. Elle reste un fantôme. C'est-à-dire, même dans la mort, elle...
On ne sait pas.
Il n'y a pas de passage physique, en fait. Et ça, je trouve ça... Je trouve ça assez fascinant, cette idée de n'avoir aucune frontière, en fait, parce que cette non-existence l'empêche sans doute de trouver une place, et en même temps, c'est ce qui fait qu'elle ne se trouve pas de frontière, c'est ce qui fait peut-être qu'elle peut envisager ce voyage.
Elle est hors tout.
Exactement, oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que, quelque part, j'allais dire, ce qui la relie à l'histoire et aux différents moments de son histoire, ce sont les objets matériels. Et c'est d'autant plus important pour elle que, on évoquait le fait qu'elle était vêtue avec les vêtements de ses frères, que les chaussures, elle les découd, elle les recoud, voilà. Donc il y a quelques objets comme ça qui la constituent et qui vont faire le fil de toute son existence, puisque ces objets seront avec elle tout le temps, même au-delà de sa disparition. Et c'est d'autant plus intéressant dans le cadre de l'Hôtel Atlantique, on va en revenir dans quelques instants, mais pour elle, ces objets, ce sont d'une certaine manière, autant elle attache peu d'importance à son corps, autant par contre ces objets sont, son squelette.
Oui, c'est paradoxal parce que c'est comme ça qu'elle se trouve une peau, d'une certaine manière. Sinon, elle s'évapore presque. Oui, c'est paradoxal parce que, alors effectivement, elle n'est pas dans un. Je parlais tout à l'heure de sa recherche, de l'oubli, de sa fabrication de l'oubli. Pour autant, elle n'est pas dans un rejet.
Non.
C'est-à-dire.
Ce qui est derrière est derrière.
Oui, mais c'est une certaine façon. Mais en fait, ce qui est derrière est aussi devant. Puisque.
Elle est là.
Oui. Alors d'abord, oui, voilà, tous les temps sont présents en même temps, à chaque fois, dans chaque pièce, dans chaque espace. N'importe quel motif d'aujourd'hui renvoie à un motif du passé, etc. Il y a pas, quand je parlais d'absence de frontières, ça vaut aussi pour le temps. Ce qui m'intéressait d'ailleurs dans l'Hôtel Atlantique, c'était que l'espace devient temps et que le temps devient espace. L'espace devient temps parce que il y a tout un, on va y revenir je pense, mais il y a une sorte de chemin fléché, il y a un circuit à suivre au sein de cet hôtel quand on est accueilli entre guillemets et on doit suivre tout un protocole, et donc tout ça fabrique du temps, puisque du temps d'attente, du temps de visite médicale, etc. enfin on est pris dans un temps qui ne nous appartient plus. Et en même temps, le temps devient espace aussi, puisque le temps qui nous sépare de la traversée va faire qu'on va découvrir un nouvel espace. Et donc, Jeannine, elle est hors de ces frontières-là, d'une certaine façon. Mais en même temps, c'est une façon non pas de se souvenir, mais de continuer à habiter son corps, justement, peut-être sans mensonge. Elle n'est pas dans la constitution d'une nouvelle identité, c'est-à-dire elle refuse le principe. Elle refuse cette dialectique-là. Elle n'est pas dans l'idée de... son nom va être modifié. Mais ce n'est pas une décision qu'elle prend de s'appeler autrement, de s'inventer une autre histoire au sein de laquelle elle aurait une autre famille, etc. Elle le fait par commodité pour les services d'immigration, mais elle ne se ment pas sur elle ne se ment pas à elle-même.
Elle le fait sans le faire, parce qu'on peut.
Elle ment par omission.
Elle ne dit pas. Elle donne une poignée de main. Donc elle a d'autres moyens de faire. Et c'est ça qui en fait ce personnage si intense.
Oui, et pour revenir aux objets, c'est intéressant. Est-ce que moi je suis pas pourtant. Je suis pas complètement attachée aux objets dans leur signification. Je vais pas parler de talisman ou de choses comme ça parce que c'est pas la manière dont moi je ressens les choses. Je dirais plutôt que c'est vraiment dans leur matérialité même. Elle a aussi, de par justement cette non-existence et la violence de la scène inaugurale à laquelle elle-même a assisté. Elle a un sens du détail très fort, et donc ce qui est retranscrit des objets, c'est aussi son propre regard sur ces objets, la minutie avec laquelle ils ont été fabriqués, et donc comment ça peut lui permettre d'accéder à une certaine matérialité. En fait, c'est la seule chose sûre, c'est la seule chose tangible qu'elle est. Et j'allais dire qu'elle possède, et il y a aussi des objets qui ont été, on peut le deviner, volés ou voilà.
C'était un temps pas si longtemps où l'horizon portait un nom, Ellis Island. Pour lui, on quittait son pays, travail, patrie, famille, sa vie. Son no man's land. On emportait dans ses effets un peu de terre et des prières et des offrandes. Les miettes d'un passé prochain avec en vue la grande statue de la légende. Ellis Island, Ellis Island. Là-bas, les noms changeaient de son sur les papiers d'identité sans qu'on le demande. On s'y mariait à moindre frais entre inconnus pour son salut à la commande. Autant d'épreuves pour faire peau neuve, l'accord écrit et le ferry que tous attendent. Pour achever la traversée et se bâtir un avenir comme ils l'entendent. Ellis Island, Ellis Island, Ellis Island. Samarcande à la Gironde, on était fait pour fendre l'onde. Oui, mais voilà, la terre est ronde et l'horizon est un musée du New Jersey. Ellis Island, Ellis Island. Ellis Island, Ellis Island.
Les objets sont extrêmement importants et il y en a un particulièrement qui est cette hermine. Parce que il y a quand même une valeur symbolique très très importante dans cette hermine et dans le chemin de cette hermine. Et on imagine ce personnage avec cette hermine, c'est extrêmement visuel parce que c'est ça qu'il faut préciser aussi, Justine Beaune, dans Si tu traverses les eaux, paru chez Gallimard, c'est que vous nous donnez à voir. Autant on évoquait la notion temporelle, parce qu'effectivement il y a un parcours qu'on va aborder dans quelques instants, mais vous nous perdez aussi dans le temps, parce que ce temps est incompressible, mais en même temps il est subjectif. Chaque personne qui traverse les différentes phases de tri de l'hôtel Atlantique, on est dans le ressenti temporel, on n'est pas dans une factualité. Et ça m'a intéressée. Et donc, du coup, qu'est-ce qui reste quand on n'est plus maître du temps, quand on n'est plus maître des horloges? Il reste les objets. Et ces objets, eh bien, petit à petit, on va les perdre d'une certaine manière, sauf Jeannine. Qui va s'accrocher.
Sauf Jeannine et puis une montre.
Oui, qu'elle va.
Oui. D'ailleurs, il y a cette phrase à un moment donné qui intervient en italien dans le texte, qui est « Le temps est perdu ». Au sujet de la montre, mais je ne veux pas dévoiler tout le passage. L'hermine, je ne sais plus comment... En fait, ça m'est venu effectivement comme un tableau. Ça doit correspondre très certainement à... Un tableau que j'ai vu ou un mélange de tableaux que j'ai recomposé après les avoir vus, mais effectivement je voyais cet enfant dans un manteau trop grand d'hermine, dans un paysage de neige. C'était un petit peu l'image préexistante de cet enfant. C'est totalement fou, enfin, imaginer un manteau d'hermine dans une maison, dans un foyer relativement modeste, puisque l'hermine, ça peut renvoyer plutôt à la royauté.
Oui, pour quelqu'un en plus qui a fui à travers l'Europe, qui vient d'un pays qui n'existe même plus.
C'est la pureté aussi. Il y a la pureté de la couleur, de la matière, qui est la notion de pureté m'intéresse beaucoup. Elle est très manipulée, elle est très désirée et rêvée, je pense, disons par des forces politiques assez douteuses, très régulièrement. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est de revenir en fait à une forme de pureté, on le disait, matérielle, tangible, sur le dos d'un personnage qui, lui, justement, n'a pas le luxe de la pureté, elle n'en a pas le désir non plus. Mais c'est une forme de rêve et puis aussi de rempart au reste du monde, puisqu'elle refuse de se séparer de ce manteau, qui est la seule chose qui lui reste, et en même temps dont elle a l'impression peut-être que ça la dissimule et ça la protège. Et ce manteau va rester tout au long du livre un petit peu endommagé, mais il restera. Ouais.
C'est sa peau.
Oui, c'est sa peau.
C'est sa peau.
Oui, c'est vrai. C'est comme une mue, mais qui ne se serait jamais complètement...
Qui ne serait pas tombée.
Exactement, oui.
Alors, on va parler de l'hôtel Atlantique, du sort qui attendait donc les gens qui se retrouvaient à l'hôtel Atlantique, qui est un sort que vous avez découvert comment?
J'en ignorais tout, jusqu'à... puisque, comme je le disais, donc... j'ai grandi effectivement dans une ville dans laquelle il y avait ce mot en fait qui était un repère quotidien, l'hôtel Atlantique, il fallait tourner à gauche au niveau de l'hôtel Atlantique pour aller au bureau de tabac, c'était à peu près ça. Donc je connaissais la façade qui me paraissait presque un trompe-l'œil ou une... ça paraissait pas exactement réel, c'est-à-dire qu'il y avait le nom, hôtel Atlantique, et puis il y avait la matérialisation du nom, mais les deux ne se rejoignaient pas totalement. Et puis, je crois que c'était, oui, il y a 2 ou 3 ans, je suis tombée sur une photo de l'Hôtel Atlantique. Et puis, j'ai lu une légende qui a suscité ma curiosité. Et j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'en fait, cet Hôtel Atlantique, donc, qui est un énorme bâtiment art déco, qui en plus est intéressant parce que art déco, donc une sorte de futur du passé ou passé du futur, enfin on est un peu justement pris entre deux temps dès qu'on regarde ce type d'architecture, je trouve.
Avec une dimension utopique en plus.
Oui, exactement. On sent qu'il y a. Que la pierre recouvre une mythologie, en fait. Donc, je connaissais cette image et je me suis rendu compte que cet hôtel, qui porte le nom d'hôtel mais n'est pas exactement un hôtel, avait été construit en 1922 par 3 compagnies transatlantiques qui faisaient donc la traversée entre l'Europe et les États-Unis, pour le dire vite. Et qui, face à l'afflux de candidats à l'immigration vers les États-Unis, devait en fait faire un premier tri. Mm-hmm. Et ça, le mot de tri, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation sur cet endroit.
Ah non, on sait ce qui s'est passé à Ellis Island, on sait comment on visite les bâtiments, toute l'histoire, mais pas l'Hôtel Atlantique.
Exactement, je ne savais pas du tout que sur le territoire français, il y avait. Je me doutais bien qu'on contrôlait les gens avant l'arrivée sur le bateau.
Mais pas à ce point-là.
Mais pas à ce point-là. Je ne savais pas qu'il y avait un lieu dans lequel ça s'était déroulé, et surtout qui avait été construit pour ça. Et donc ce lieu a été construit en 1922. Et effectivement, il devait accueillir les milliers de personnes qui déferlaient de toute l'Europe jusqu'à la Turquie, jusqu'au Levant, et qui donc avait traversé toute l'Europe très souvent pour arriver jusqu'à l'extrême ouest de la France. Donc là, on est sur les rives de la Manche. Et pour qui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Hôtel Atlantique était la dernière étape. Mmh. Et il y a quelque chose de très très cruel aussi dans cette idée de ce long périple qui a déjà été très 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 très, très long, qui a pu prendre plusieurs années, il a fallu économiser, aller d'endroit en endroit et avancer petit à petit vers l'ouest. Et donc on y est presque, mais presque. Et le problème, c'est que presque, c'est vraiment pas encore. Et tout ce qui se passe dans l'Hôtel Atlantique, justement, c'est on éprouve ce mot presque, puisque donc les immigrants arrivaient, donc c'était un moment où on était. Les vagues d'immigration vers les États-Unis étaient très très fortes. Et les quotas se sont durcis vers 1924, donc juste après la construction de l'Hôtel Atlantique. C'est un peu l'un de ces lieux qui a été condamné à peine sa construction achevée, quoi. Et donc, on arrivait, quand on était un migrant de 3e classe, et il y avait effectivement un circuit à l'intérieur de l'hôtel qui était séparé en 2 quartiers, le quartier désinfecté et le quartier des désinfectés. Donc le quartier désinfecté, c'est évidemment toutes les personnes qui arrivent et qui sont susceptibles de porter des maladies, des virus, etc. Donc il y a une désinfection qui a lieu, qui est particulièrement...
C'est d'une violence terrible, parce que on va aller... alors il y a un circuit, mais il y a différentes étapes, c'est presque les stations du Christ, cette histoire, parce que...
thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now, but you know you won't be back. Well, darling, if you're weary, lay your head upon my chest. We'll take what we can carry. Yeah.
Get on board. People get ready.
on va vers la le fait de perdre tout jusqu'à la nudité la plus extrême et totale, aussi bien matérielle que spirituelle. On va prendre des gens qui vont arriver avec leur histoire, leur humanité, leurs objets précieux, émotionnellement parlant, et on va tout leur enlever.
C'est un dépouillement
complet.
Et en plus, qui se fait... Quand je disais tout à l'heure que l'espace crée du temps, qui se fait crescendo, et en même temps, pour vous réduire le plus possible. C'est intéressant parce que ce moment-là, il est aussi paradoxal. Il y a une perte. En plus, on imagine que les personnes qui partaient n'emportaient avec elles que les choses les plus précieuses, les habits dans lesquels ils voulaient arriver rayonnant,
les souvenirs
aux États-Unis, les souvenirs, et donc tout ça doit passer à l'étuve, les vêtements doivent être nettoyés, et les corps doivent être nettoyés. Donc il y a un mélange d'hébétude, on ne sait plus d'ailleurs quelle heure il est, on ne sait plus quand on est arrivé,
il n'y a plus de repères,
et en même temps c'est là que les langues surgissent, et vous parliez de Tour de Babel tout à l'heure. C'est là aussi que d'autres niveaux de peau en fait se révèlent, et que les corps se transforment d'une certaine façon, c'est-à-dire la manière de se tenir peut être différente.
On ne se tient pas nu devant les autres de la même façon qu'habillé.
Et que dit-on de soi par un simple geste? Tout est dépouillé, et en fait c'est ça. C'est ce circuit-là qui m'a permis d'aller vers la figure de Jeanine Ring. J'ai aussi beaucoup de méfiance vis-à-vis de la construction des personnages. Je trouve ça toujours un peu douteux. Mais là, en fait, la construction du personnage, elle a lieu parce que la personne elle-même doit se construire un personnage. Puisqu'on arrive, on se dépouille. Et en fait, tout parcours migratoire, là, ce sont des conditions particulièrement difficiles, cruelles. Et violente, mais tout parcours migratoire passe par ça. Se dépouiller de son nom, même si on n'en change pas, mais en fait il ne sera plus jamais prononcé de la même manière. Abandonner une langue, même si elle ne disparaît pas, on ne la parlera plus jamais de la même manière et on n'aura plus l'occasion de la parler au quotidien. Donc adopter une nouvelle langue. Les vêtements, là, qui ont été désinfectés, n'auront plus jamais la même odeur.
Même les billets n'ont plus la même odeur.
Exactement. Oui, l'argent est sale. Même l'argent est sale. Mais donc, c'est aussi... ce lieu permettait aussi à Jeanine Ring d'exister, pour moi, littérairement, puisque c'est elle qui se construit. Et on parlait de sa non-existence... finalement elle traverse ces étapes-là avec la même détermination, puisque peut-être elle est dans la certitude de ne pas être vraiment regardée,
elle est dans une autre dimension
complètement.
D'une certaine manière,
de toute façon elle ne voit que l'horizon, alors qu'on ne voit pas dans ces salles-là de l'hôtel Atlantique, mais elle n'a en tête que l'horizon.
Alors effectivement elle est un peu différente des autres. Je pensais en vous écoutant, Justine Beau, à l'importance dans « Si tu traverses les eaux » paru chez Gallimard, à l'importance de la peau, cette dimension de la peau extrêmement présente dans les personnes qui sont présentes dans cet hôtel atlantique. La peau qu'on a évoquée de Jeanine. Et puis, il y aura d'autres choses qu'on ne dévoilera pas, mais peu à peu... ce chemin que vous évoquiez, qui est particulier pour Jeanine, qui est un chemin d'identification d'une certaine manière, va passer par cette dimension d'acquérir un corps.
Oui, et c'est justement, je crois que c'est d'autant plus évident pendant ces premières étapes de la désinfection, où il y a un passage effectivement sur le fait que la peau devient du cuir, le cuir étant une matière importante dans le livre, oui. Aussi. et qui renvoie au soulier de Jénine et qui renvoie donc à la marche. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très fort pour moi dans l'écriture, c'est-à-dire l'écriture comme une marche de la pensée. Mmh. Et, parce que c'est par la pensée que Jénine Ring justement se trouve un corps, c'est-à-dire que ce corps, je ne sais pas quel verbe employer. Elle décide qu'elle peut s'y résoudre.
Je vais le dire, il lui est un peu dévoilé par les rencontres qu'elle va faire.
C'est ça. Comment dire ce corps. Les premières choses auxquelles nous on a accès, c'est son corps d'enfant, qui donc n'est pas encore formé, etc. Ensuite, elle le dissimule. Elle se laisse un petit peu malmenée, mais en fait, c'est à partir du moment où elle envisage son corps dans un autre espace que ce corps devient possible, en fait. D'ailleurs, il y a une évolution dans le texte du conditionnel vers le futur, qui nous permet aussi d'accéder au passé. Elle opère une transition. Et surtout, elle décide qu'elle est propriétaire de son corps à un moment où elle n'en est plus véritablement maîtresse. Et elle le décide d'autant plus que elle va décider d'abandonner son corps dans cet hôtel atlantique.
Alors, il y a un moment charnière, on ne va pas dévoiler ce qui se déroule ensuite pour elle, mais il y a un moment charnière à ma lecture, qui est, elle va se lier d'une certaine manière avec un personnage qui s'appelle Maria, qui est celle qui va prendre soin de l'Hermine et qui va lui rendre, elle va lui garantir qu'elle lui rendra. Et à un moment, il va y avoir un échange qui va se produire. Et Jénine, elle fait partie de la White Line, Maria, elle est employée. Et Jénine va enfiler l'uniforme. Et à mon avis, c'est là que les choses vont commencer à bouger.
Oui, mais dès l'instant, finalement, où Jénine confie à Maria, d'une certaine manière, elle lui confie sa peau. Mmh. Et vous l'avez dit, c'est-à-dire elle se lie d'amitié. Donc Maria travaille effectivement pour la compagnie transatlantique. Donc elle fait partie du personnel de l'hôtel atlantique. Elle voit que Jénine est un peu perdue, elle décide de prendre soin d'elle. Et donc c'est comme si... quelle est l'expression déjà ? Enfin, c'est elle qui va sauver la peau de Jénine, littéralement. Et donc effectivement, il y a une sorte de transaction, mais enfin de... d'échanges en différé, qui passent d'abord par l'Hermine, ensuite par les uniformes et ensuite par le corps lui-même. C'est-à-dire on avance par
étapes. Ouais.
Et alors là, évidemment, il y a le motif du double aussi qui est important, la reconnaissance qu'il peut y avoir entre deux personnes, fût-elle de pays complètement différents, d'histoires différentes. Donc il y a une... Il y a une forme de reconnaissance, voire de gémellité entre elles, qui est permise aussi par cet endroit-là, qui est un endroit de transit d'entre deux.
Steht er beim Alle Wind, auf dem Baum alle sitzt der Feigerle, singt. Wo's da schreckst du mich, wo's betriebst du mich, Wind? Gib mir noch ein Wort, gib mir noch ein Lied, Kind. In der Stiebe alle lebt der Träum alle Tint. jenem träumale, gaita meidale, singt, wo's dann schlägste mich, wo's betriebste mich, tint. Gib mir noch ein Wort, gib mir noch ein Liede, Kind. Bleib die kalte Nacht, treu die schwarze Nacht, stimm. Läuft der weise Wind, heu der grohe Winterin. Wo je schluchzt noch, wo je schweigst noch, Sehne. Kim zu mir mein Hals, kim zu mir mein Glück, Kim. Sitzt du Zweigale frim, wo je schlufst noch, wo je schweigst noch, blim. Scheun ist du keine Wind, scheun ist du keine Tint, sing, sing, sing.
Mais vous jouez beaucoup sur le jeu de miroir et sur le thème du double, parce qu'il y a effectivement Maria, il y aura un autre personnage qu'on n'évoquera pas qui s'appelle Edith, et puis il y a des générations plus tard, une jeune femme qui revient sur les traces de Jeannine, et on est en et il y a une femme de chambre aussi qui intervient, que des personnages féminins. Le seul personnage masculin, c'est le médecin, en fait.
Quasiment.
Mais là, entre ces différentes femmes, il y a à la fois un côté miroir et un côté poupée russe.
Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup les deux motifs, en fait. Mais en vous écoutant parler, j'ai en tête... Il y avait ça dans une pièce de ma maison quand j'étais enfant, les miroirs qui se font face, qui réfléchissent à l'infini. Et ça rejoint aussi... Je pense à des tableaux de Jérôme Bosch, ça rejoint justement ce grand tableau de l'Hôtel Atlantique aussi, où les silhouettes au bout d'un moment deviennent parfois un peu indistinctes, et il suffit de regarder d'un peu plus près, on voit que chacune est très 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 particulière. J'aime beaucoup ces deux motifs, et je crois que ce qui m'intéresse de plus en plus dans l'écriture, c'est la circulation entre ces figures-là, qui ne sont pas prises au piège justement de cet effet miroir. Elles sont tout à fait lucides sur l'existence de cet effet miroir. Elles sont...
Je t'ai reconnue.
Oui, exactement. Elles sont aussi dans un désir de reconnaissance de l'autre, et elles décident aussi.
Oui.
Parce qu'en fait, Maria aurait pu décider de ne pas s'intéresser à Jeannine, et Jeannine aurait pu décider de ne pas parler à Maria. Mais elles ont décidé que cette rencontre, que cette personne-là devait être rencontrée aussi. Et je crois que c'est un petit peu la même chose pour tous les personnages féminins qu'on évoque. Ils auraient pu décider de prendre un autre chemin. Et c'est, je crois justement, la circulation, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait ni de la transmission, ni de la continuation, c'est simplement de...
C'est être relié.
Oui, c'est être relié, mais c'est se faire... En fait, c'est vraiment se faire écho. Hein.
Oui, je reviens. Oui, non, tout à fait.
C'est vraiment ça, c'est de... parce que je trouve que c'est... Comment dire Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose... non pas de rassurant, mais peut-être de stimulant dans la vie, justement, de reconnaître ça, de se reconnaître aussi à l'intérieur d'un... je sais pas, de toute une lignée, je parle pas du tout de généalogie, mais vraiment de personne. Ça peut être quelqu'un qu'on croise dans la rue, quelqu'un qu'on voit dans une bibliothèque, je sais pas, mais de c'est une circulation du souffle.
C'est un peu la notion de famille logique.
Oui, c'est ça. Une constellation. Oui.
Alors, toujours en termes d'écho, il y a un écho géographique aussi qui est très présent dans « Si tu traverses les eaux » de Justine Bou, paru chez Gallimard, qui est l'écho des hôtels, des différentes chambres d'hôtels. Et ça, c'était intéressant aussi parce que, bien sûr, on ne dévoilera pas l'histoire, mais Jeannine va traverser les eaux de toutes les manières possibles va se retrouver donc aux États-Unis. Et va y avoir comme ça des chambres d'hôtel qui vont se répondre. Et puis dans ces hôtels, des anecdotes aussi, d'autres personnages dont on ne sait rien, si ce n'est un petit fait quelconque. Et ça aussi, ça donne une dimension particulière au livre.
Oui, mais on revient un peu à cet effet miroir et à cet effet miroir déformant.
Tout à fait.
Miroir et écho, c'est-à-dire effectivement, y a cet hôtel Atlantique qui est cette sorte d'hôtel. Initial,
fondateur,
des origines un peu effrayantes, etc. Et puis ensuite, il y a toute une série d'hôtels, effectivement, à Miami, qui sont là des hôtels de tourisme d'aujourd'hui. Et évidemment, qui ne se ressemblent pas du tout, qui se ressemblent par le mot, et qui se ressemblent parce qu'il y a quelques conditions qui sont en commun, c'est-à-dire. La brièveté d'un séjour ou même si Jeannine va élire domicile dans un hôtel, mais ils ont à nouveau des endroits de transit. Et en même temps, évidemment, en français, un hôtel, c'est aussi un hôtel AUTEL, c'est-à-dire, pour le dire très vite, l'endroit du sacrifice.
Oui.
Donc y a, ce double sens, il est important. Et c'est aussi des endroits rassurants, en tout cas pour ce qui est des hôtels de tourisme de Miami qu'on rencontre à la fin du livre, des endroits rassurants parce qu'on ne laisse pas vraiment de traces.
C'est-à-dire qu'un hôtel,
sauf elle, mais du coup ce sont des traces réduites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une maison à vider ou c'est-à-dire que c'est un endroit où même si vous y mourrez, en fait, le lendemain, une femme de chambre viendra faire la chambre, etc. Il y a une sorte de répétition, de rythme qui reste au-delà de vous.
De désinfection, là encore.
Ouais.
Alors, dernier point, Justine Bou, non, si tu traverses les eaux, on a évoqué à quel point le silence était important pour Jeannine de ce côté-là de l'Atlantique. Et ce qu'on peut dire par contrat, c'est qu'à partir du moment où elle sera de l'autre côté, qu'elle aura traversé les eaux, elle aura accès aux mots et qu'elle en fera œuvre de fiction, de raconter des histoires. Et ça m'a aussi...
Oui, c'est vrai. Elle devient scénariste et elle écrit notamment le scénario d'un film qui s'appelle Le cri muet.
Eh oui. Que vous détaillez, qui m'a fait beaucoup sourire.
Alors, ce n'est pas une idée de film que j'avais eue au préalable, mais ensuite, je me suis dit que j'avais bien
quand
même l'idée. Oui, effectivement, elle devient... Elle a une existence dont on ne sait pas ce qui a été fantasmé, ce qui est réel, etc. Mais son existence nous arrive par bribes. Il y a plusieurs étapes dans son... Après son arrivée aux États-Unis, elle exerce plusieurs métiers, dont celui de scénariste puis de réalisatrice. Et effectivement, elle devient scénariste, je ne vais pas dire comment, mais un peu par erreur et par bravade et par bêtise. Et surtout, ce n'est pas sa langue. C'est surtout ça, c'est qu'il y a une sorte de vernis peut-être qui se pose pour elle sur les mots et le récit devient possible. Le récit n'a jamais été possible dans sa langue, elle, sur son continent, elle. Mais là, il devient possible aussi parce qu'elle entre justement dans le récit, par le récit cinématographique, dans un pays qui a une histoire particulière vis-à-vis de ça, enfin, une histoire industrielle aussi. On revient à l'objet, presque. Elle écrit d'abord pour les autres, au nom des autres, de manière anonyme. Et puis, le récit devient possible jusqu'à un certain point.
Oui, tout à fait.
Oui.
Alors, il y aura aussi l'importance de l'image. Mais en vous écoutant, je pensais à quelqu'un de précis qui est Aaron Appelfeld.
Oui.
Qui a pu écrire et passer effectivement au roman racontant ce qu'il avait pu traverser à partir du moment où il y a eu ce changement de langue et où il a pu où il a appris l'hébreu et donc il a écrit en hébreu et ça m'est venu là aussi en miroir.
C'est vrai que cette question de la langue elle recouvre plusieurs choses. Pour Jeannine, d'abord, en fait, ça correspond aussi à son apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine qu'elle va vraiment parfaire son anglais, justement, en écrivant. Donc, finalement, son mode, son premier lien à l'anglais est celui-ci. Ce que je trouve intéressant, puisque je considère aussi que le récit se constitue par la langue, mais que c'est pas...
Évidemment.
Voilà. Et puis, évidemment, quand on change de langue, on change de voix. Je pense. Il y a des mots qu'on découvre dans la langue nouvelle qui... Enfin, ça, c'est une donnée objective, mais elle est à la fois subjective, c'est-à-dire que à la fois, il y a des mots qui vont désigner... Voilà, qui vont désigner... qui vont avoir des définitions très précises pour lesquelles nous n'avons pas de mots, par exemple, dans notre langue. Et puis, on va aussi attacher, nous, une certaine définition à certains mots. Moi, il se trouve que dans ma vie personnelle, je ne parle pas principalement le français. Et en fait, il y a simplement des phrases qui me viennent en anglais ou en espagnol. Mais parce que la signification, soit la tournure syntaxique, fait que je trouve que la pensée est mieux énoncée comme ça, ou parce que tel mot va me paraître avoir la teinte précise de ce que je veux dire dans cette langue-là que je n'aurais pas en français. Et donc il y a ça aussi qui est important, je pense, pour Jeannine. Et puis, bon, ça me fait penser aussi à W, ou le souvenir d'enfance, évidemment. Il y a quand même aussi un surgissement de sa langue perdue aux États-Unis, qu'on ne détaillera
pas. Il y a aussi l'image, parce qu'elle sera aussi photographe, parce que c'est aussi un regard, le regard.
Oui, voilà. Regard.
Donc il y a plein de choses dans ce livre, qui est un court roman, on ne croirait pas comme ça, parce qu'on en a beaucoup parlé sans dévoiler pour autant l'histoire, mais c'est un livre qui est extrêmement dense. Si tu traverses les eaux, c'est de Justine Beau. Je ne peux que vous inciter vraiment à découvrir ce parcours. Merci en tout cas, Justine Beau, d'avoir échangé avec nous aujourd'hui. Alors, dans cette émission, on pose toujours la question de la suite. Celui-là est sorti. Vous nous avez dit qu'il avait été écrit il y a 2 ans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est en...
Ou en écriture.
En écriture.
Oui, oui.
Roman aussi.
Oui, toujours. Oui. C'est une forme vaste et complexe, mais... C'est ma forme, en tout cas.
En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Je vous remercie.
Merci.
Si tu traverses les eaux, Justine Beau, c'est paru chez Gallimard. Thank you.
Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
Voilà, c'était Justine Beau qui nous parlait de son roman « Si tu traverses les eaux » paru aux éditions Gallimard. On va retrouver dans quelques instants Grégory Le Floch pour « Peau d'ours ». Ça, c'est paru aux éditions du Seuil. C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire qui reçoit aujourd'hui dans Idéo et Débat Grégory Le Floch pour un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est paru aux éditions du Seuil et qui s'appelle Peau d'ours. Alors moi je vous ai découvert avec celui-là, avec ce roman-là, que vraiment j'ai beaucoup aimé et je suis ravie de faire votre connaissance et de pouvoir en parler ce soir. Grégory Le Floch, ce personnage de Peau d'ours, de votre personnage principal, donc mon perdu, c'est un très très beau personnage, mais je voulais savoir un petit peu comment était né ce roman et comment vous aviez choisi le mode narratif utilisé, c'est-à-dire le fait de faire que mon perdu parle à quelqu'un et parle et nous parle à nous.
C'est toujours difficile hein, de se rappeler des origines. J'ai l'impression que une fois que le roman il est fait, ça a toujours été là. Et quand j'essaye de démêler les fils, j'ai peu de souvenirs. Mais ce que je peux dire, c'est les lectures que j'ai pu faire cette année-là. J'avais découvert Nivia Corneliusen, qui est une Groenlandaise avec Homo sapiens, qui m'avait vraiment frappé avec cette écriture très moderne. Et elle avait fait rentrer vraiment un langage contemporain dans la littérature et ça m'avait vraiment stimulé avec des transcriptions de conversations WhatsApp qui pouvaient paraître d'extérieur comme ça très, gadget futile, mais en réalité, quand je suis arrivé à ces pages-là de transcription de conversation WhatsApp, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une tragédie qui se jouait là. Et je me suis dit, mais oui, il faut que je me lance dans l'hyper contemporain, ce que je n'avais toujours pas fait. Et le personnage de l'adolescente m'intéressait peut-être parce qu'elle me permettait d'avoir ce langage très contemporain.
Alors, ce personnage, on va en parler, on va présenter Mon Perdu dans quelques instants, mais quand vous évoquez cet univers ultra contemporain, ce qui est intéressant aussi dans Peau d'ours, donc de Grégory Le Floch paru aux éditions du Seuil, c'est ce mélange entre ce vocabulaire d'ado, ce comportement d'ado qu'on va évoquer dans quelques instants, et le décor qui, lui, est un endroit, j'allais dire, intemporel, figé, gelé dans tous les sens du terme. Et c'est le choc des deux qui est intéressant. D'ailleurs, vous mettez en exergue une phrase de Preciado. On pourrait peut-être commencer par en parler parce que justement, je crois qu'elle a son importance.
Oui, je suis la multiplicité du cosmos.
Oui.
Moi, je trouve que c'est une phrase magnifique qui est presque poétique. Je suis la multiplicité du cosmos. Ça pourrait être extrait d'un vers d'Ovide ou de l'Antiquité. C'est un sentiment, je trouve, digne des grands mythes. Et ça m'avait frappé. Alors, j'aurais peut-être dû citer la phrase qui se trouvait avant cette citation. Parce que c'est tiré d'un appartement sur Uranus de Paul B. Preciado. Et la phrase qui précédait, de mémoire, hein, c'était « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bisexuel. » Je suis un dissident du système sexe-genre, je suis la multiplicité du cosmos. Et c'était vraiment, en fait, le programme que j'avais avec mon perdu, mon personnage. C'est-à-dire un être total et qui s'extrait d'un système comme ça, duel, un peu archaïque, homme-femme, et qui invente de façon un peu révolutionnaire une nouvelle façon d'être. C'est-à-dire que mon perdu, mon personnage est à la fois un garçon, une fille, mais ni l'un ni l'autre. Elle est aussi animal, elle peut être aussi montagne, elle pourrait très bien être une rivière, un poisson. Elle glisse comme ça entre toutes les frontières des espèces, des règnes. Et moi, ça me fascine, ce genre de personnage. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns en littérature. Et c'est très beau et c'est aussi, comment dire, un horizon peut-être pour le 21e siècle.
Oui, et je vais reboucler avec la question initiale que nous avions abordée, qui est la question du temps. Elle est transtemporelle aussi, d'une certaine manière.
C'est vrai parce que elle est plongée dans ce petit hameau de haute montagne où rien n'a bougé depuis des siècles. Les personnages qui l'entourent pourraient être des personnages du 19e, du 18e, mais elle est branchée à son téléphone portable et à Instagram et à des désirs très contemporains. Elle est comme ça étirée entre les deux. Et ce personnage va par sa vision un peu du futur et son caractère subversif, dynamiter ce petit microcosme montagnard.
Bah, dynamiter le microcosme, dynamiter sa vie aussi. C'est vrai que tout va exploser, mais on va pas dévoiler l'histoire. Je reviens, Grégory Le Floch, sur le fait de l'avoir fait parler, ce choix narratif d'écriture. C'est venu comment?
Je fais souvent parler mes personnages. Le roman précédent, c'était ça. Une femme qui découvrait le journal intime de son grand-père, je la faisais parler. Je faisais aussi parler le grand-père. J'aime bien écrire à la première personne. Je crois qu'il n'y a que mon deuxième roman qui a été écrit à la troisième personne. Et pas totalement. Donc, la première personne me plaît parce que j'ai l'impression qu'il y a une connexion beaucoup plus forte avec le lecteur, le personnage. J'aime bien me mettre dans la peau d'eux, d'où le titre aussi, Peau d'ours. Et c'est comme ça que je fonctionne. Je me glisse dans la peau, je fais ce travail d'altérité, de devenir quelqu'un d'autre. Et la troisième personne met un peu une distance, en tout cas dans mon cas. Et j'avais envie d'être mon perdu. Et la première personne aussi me permettait de flirter avec une narration qui ressemble à un journal intime, mais ce n'en est pas réellement un. Une narration qui ressemble à une confession à une amie imaginaire, parce que mon perdu s'adresse à un tu, meuf, mais ce n'est pas réellement une amie imaginaire. Ça permettait en réalité un dialogue du je au tu, mais le tu du lecteur. Mon perdu s'adresse en réalité au lecteur directement.
Finally let go and divine.
Bah, c'est pour ça que ça marche très très bien. C'est, oui. On est capté. Je reviens, vous avez évoqué Grégory Le Floch, le titre « Peau d'ours », donc ce roman paru aux éditions du Seuil. Alors, la peau d'ours, oui, c'est sa peau, mais en même temps, c'est polysémique dans l'histoire. Parce que ça correspond également à une tradition qui perdure dans ce village et qui est une tradition qui va être, j'allais dire, le déclencheur, d'une certaine manière, de tout ce qui va arriver.
C'est ça. Alors, le village où se trouve mon perdu conserve encore une très vieille tradition, la fête de l'ours, qui existe. Encore aujourd'hui, et là ce sera fin février, début mars, il y a 3 villages des Pyrénées qui célèbrent la fête de l'ours. Alors avec des caractéristiques différentes, une chorégraphie, un scénario différent, mais depuis quelques années, la fête de l'ours est au patrimoine de l'UNESCO. Et cette fête de l'ours qui était extrêmement répandue au Moyen-Âge, a des caractéristiques vraiment très fortes, c'est-à-dire c'est la célébration de la survie des hommes une fois l'hiver passé, leur survie à cause de la neige, de l'hiver, des prédateurs, les loups, les ours, et une célébration aussi de la domination de la nature par les hommes, parce que la fête de l'ours, c'est un jeu de rôle. Un homme revêt une peau d'ours, s'écarte du village un matin avant de bondir dans les rues, poursuivi par des bergers. Et là, se met en place dans une sorte de chorégraphie, hein, une partition, un grand jeu de violence. Parce que l'ours va s'attaquer aux jeunes filles du village avec des simulacres de viol. Et les bergers vont l'abattre au bout d'un moment. Donc domination de l'homme sur la bête, mais domination de l'homme aussi sur les femmes. Ça se rejoue de façon perpétuelle, une violence comme ça chorégraphiée chaque année. Alors moi, j'aime beaucoup la violence en art. Je trouve que c'est toujours, c'est capital, c'est important, c'est un exutoire, il y a quelque chose de cathartique. Plus l'art est violent, plus il est salvateur. Et je pense qu'il y a de ça. Il y a, dans cette fête de l'ours, on rejoue un peu les Grecs tentaient de faire avec les tragédies, quoi. Une purge.
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fête marque aussi l'entrée dans le printemps, vous l'évoquiez, donc elle permet au printemps d'arriver, donc la transmutation vers l'éveil de la nature, et en même temps, ce personnage qui revêt la peau d'ours, c'est un personnage intéressant parce qu'il accepte d'incarner à lui tout seul la violence et ce personnage si particulier, et c'est pas neutre ce type de choix.
Ah non, c'est pas neutre. Et la personne qui est chargée de revêtir la peau d'ours, dans mon roman en tout cas, est chargée d'une force et d'une sorte de symbole très lourd. Alors, dans le roman, c'est un vieil homme qui s'appelle Vieux René.
Ouais.
Mais à cause de... Donc, il est vénéré, hein, Vieux René. Il a une place à part, il est très respecté. Mais sa femme, quand... premier jour où elle l'a vu avec cette peau d'ours, elle est partie. Elle est partie parce que y a quelque chose qui se casse, en fait, quand on voit le mari se devenir animal, devenir le monstre des autres. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est devient le monstre pendant cette journée, mais il y a quelque chose du monstre qui perdure au cours de l'année. Au début, le problème, c'est qu'au début du roman, Vieux René meurt et la fête de l'ours est en péril parce qu'on se rend compte que dans le village, aucun homme n'a les épaules assez larges et la carrure pour pouvoir le remplacer. Et là, c'est un drame. mais on se rend compte que la jeune fille qui était violentée, critiquée, harcelée, parce que trop grosse, trop grande, disproportionnée, un peu monstrueuse, on se rend compte que cette jeune fille, mon perdu, pourra endosser ce rôle, et on va le lui proposer, ça va lui aller comme un gant.
Alors, ce personnage de mon perdu, alors bien sûr déjà elle ne s'appelle pas mon perdu, c'est un surnom qui lui a été donné parce qu'effectivement elle est grosse, parce qu'elle elle défonce son lit quand elle saute dessus, elle s'avale ses canettes de Red Bull, elle est amoureuse d'une des ados du lycée, elle va avoir le malheur de le dire sur Instagram, ça va donc lui attirer la haine globale. Et donc quand cette proposition va lui être faite, c'est compliqué parce qu'on ne choisit pas facilement de devenir un monstre. Et cette monstruosité, elle est complexe.
Ah bah c'est tout l'enjeu du roman. C'est-à-dire que mon perdu ne s'appelle pas mon perdu, elle est née avec le prénom Nina.